Vous écoutez L'Autre Monde et nous sommes avec le groupe Kill the Princess pour parler de cet album qui vient de sortir le 21 novembre, A Fire Within. Bonjour à vous toutes, puisque l'ensemble du groupe est avec moi aujourd'hui. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous demandais simplement un petit tour de table, on va dire, pour que chacune puisse se présenter en donnant son prénom et ce que vous faites dans le groupe, simplement pour que après tout le monde puisse identifier vos voix au fur et à mesure de l'entretien.
Alors moi c'est Nel, je suis au chant et à la guitare.
Moi c'est Céline, je suis bassiste et choriste.
Eh ben salut, moi c'est Eva, je suis batteuse.
Et moi c'est Émilie et je suis la guitariste lead.
Donc on est ensemble pour parler de cet album Fire Within. Je vais revenir un petit peu dans le temps, puisqu'il y a eu un premier album. Après, vous avez fait un EP avec des reprises. Et là, vous venez avec ce deuxième album. Au niveau de vos compositions, est-ce que c'est des compositions vraiment toutes fraîches ou est-ce que vous aviez repris du matériel, soit qui vous restait du premier album ou vous aviez déjà commencé à composer à l'époque où l'EP était sorti?
C'est tout frais.
Ok.
Ouais.
On a vraiment composé dans les, je pense dans les 6 mois, 6, 7 mois avant d'enregistrer.
Et vous avez enregistré à quelle date?
On a enregistré, ça a été très long, mais entre le mois de février et le mois de juin.
Oui,
Parce que en fait,
enfin.
quand on a enregistré à la maison, il y a eu des sessions en fait en studio et il y a eu des sessions à la maison. Donc certaines pré-prod en fait ont servi pour l'album.
Forte de cette expérience justement de premier album et d'un EP, vous vouliez mettre quoi dans cet album Fire Within? Ou plutôt, qu'est-ce que vous avez retiré comme expérience de toutes vos dates de concert, de l'album et de l'EP?
En fait, on a appris à travailler ensemble, tout simplement, parce que le premier album, c'était vraiment allez, on se met dedans, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Du coup, on a un peu essuyé les plâtres, mais là, ouais, on a eu le temps d'apprendre à travailler ensemble. Je sais pas comment dire, parce qu'en
OK.
fait, faire des concerts et faire de la composition, c'est quand même pas le même délire. Et du coup, voilà. Et puis, on a travaillé différemment aussi, parce qu'il y a eu des moments de jam, etc., ce qui n'avait pas été le cas sur le premier album.
Ouais, on a pu prendre plus le temps de se poser pour composer ensemble, en partie. On était un peu moins dans l'urgence, même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire dans l'urgence, mais on s'est un peu plus posé quand même sur cette production.
Ouais, c'est vrai. On a vraiment pris le temps de réserver des créneaux pour juste se voir et faire de la musique et créer, quoi, ce qui était assez nouveau jusqu'à présent, quoi.
Ça veut dire que vous êtes allé jusqu'à faire des pré-prod, bien bosser vos morceaux de votre côté avant d'aller en studio? Enfin, en
Alors
studio avec les sessions chez vous
les
aussi, mais.
pré-prod, c'est toujours indispensable. En fait, même sur le premier album, il y en avait eu. C'est juste que là, c'est vraiment la phase de création qui a été différente. Sur le premier album, c'est vrai que je suis arrivée avec une grosse partie de l'album en leur disant, bah voilà, s'il faut qu'on sorte un album, moi j'ai ça. Et on est parti de ça, quoi. Là, il y a eu des moments vraiment où on a travaillé les arrangements, où on a même un morceau qui, Dream Survival, qui vient directement du jam, en fait. C'est pas le même procédé de création, en fait.
OK.
Après, la production, c'est vrai qu'on a toujours essayé de faire à peu près pareil, c'est-à-dire d'avoir une phase de production et après une phase vraiment de production avec l'enregistrement final, quoi.
Le fait de travailler toutes ensemble pour faire mûrir le morceau et tout ça, vous en retirez quoi comme enfin c'est ce sera votre façon de composer désormais. Enfin, qu'est-ce qui vous plaît dans cette façon-là?
Moi, je retiens une chose, c'est que ce morceau, Grim Survival, dont parlait Nel juste avant, est un des morceaux préférés de nos auditeurs, pour ceux qui nous ont déjà fait le plaisir de nous faire des retours. Et ça nous a touchés énormément, d'autant plus que nous aussi, à chaque fois qu'on écoute cette chanson, alors sans pouvoir se dire c'est vraiment mon préféré, parce qu'il y en a d'autres qu'on adore sur cet album, évidemment, mais c'est aussi pour nous quatre, un de nos morceaux préférés. Donc, je retiens que ce travail collectif nous permet vraiment de dégager une espèce d'essence commune, quelque chose qui vraiment est une valeur ajoutée aujourd'hui à Kill the Princess, quoi.
Ce mélange, alors on vous classe rock alternatif, qui est une étiquette que je trouve tellement On peut mettre 50 groupes à l'intérieur avec des genres tellement différents, mais il y a un petit peu de, il y a plein de choses en fait dans votre son. Il y a des choses un peu émo, il y a des choses vraiment rock, il y a des choses qui sont un petit peu plus, comment dire, punk. Et des fois, on part même limite sur des choses un peu plus pop. Vous vous mettez en fait aucune barrière, vous faites, enfin c'est un peu bête à dire, mais en vrai, vous faites juste la musique qui vous plaît.
Et c'est un peu le principe du rock alternatif, c'est le rock qui alterne entre différents genres. Et c'est marrant que tu parles d'émo parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas, mais pour moi l'émo c'est vraiment l'émotionnel, hein, c'est
Oui.
comme ça qu'a été créé le genre. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est souvent un peu stigmatisé de rock pour adolescent qui raconte sa vie toute triste alors qu'il n'a rien vécu encore. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Le rock emo, c'est vraiment d'aller puiser au plus profond de soi pour réussir à sortir les émotions. Et du coup, voilà, je suis contente en tout cas que tu parles de ça.
Oui, puisque alors c'est vrai que c'est un style qui a été un peu stigmatisé à un moment, parce que c'était effectivement les. Alors, je parle ça avec mon expérience, hein, je fais un peu le vieux sur ce coup-là, mais en même temps j'ai mon âge. Et donc c'était un peu bah, c'était les ados de l'époque qui arrivaient en tant que rebelles, alors que nous, on avait déjà eu toute la période 80-90, où ça avait été bien, bien violent, et toutes ces petites couleurs un peu roses qui arrivaient, ça faisait un peu. C'était un peu surprenant. En même temps, quand on prend un. Alors, pas pour faire un rapprochement avec votre musique, mais quand on prend My Chemical Romance en pleine figure, bah faut quand même aussi avoir le courage de sortir ça et de balancer ça en fait, quoi.
Clairement. Et c'est marrant parce
Sur...
que vraiment, je pense que c'est My Chemical Romance, c'est un des groupes les plus émo qui aient pu exister et c'est vraiment très bien. Et après, moi, je sais que j'ai écouté beaucoup Panic at the Disco quand ils, enfin, j'écoute beaucoup Panic at the Disco et quand ils sont sortis, ils ont encore revu le rock emo en fait avec toute leur vague électro burlesque. En fait, c'est ça aussi qui était cool avec le rock emo à l'époque, c'est qu'ils ont réinventé le metal rock alternatif et ils ont d'ailleurs aussi ajouté le côté très pop à la musique.
Je vais parler d'un autre morceau, c'est The Outsider, où je trouve que sur ce morceau-là, il y a vraiment plein de choses qui sont à la fois surprenantes et super intéressantes. On a des gros riffs avec du strumming qui accroche bien sur les guitares. Il y a des petites notes légères aussi de temps en temps. Il y a des passages avec des jolis accords, etc. Sur la basse, c'est bien groovy, etc. Et sur la batterie, en fait, ça change tout le temps. On est toujours sur un truc un petit peu instable et en même temps il y a une vraie belle cohérence, quoi. Ce morceau-là, il s'est construit comment?
Bah, c'est Nel qui a apporté vraiment la base, la structure de ce morceau et les idées un peu premières, on va dire, sur le morceau. Et puis après, il y a eu plein d'échanges, que ce soit à distance ou en réel, sur des arrangements, des parties instrumentales. Et on est ressorti vraiment ce côté ouais, patate et à la fois très sautillant, très funky sur les refrains. Mais vraiment le gros de l'idée, le morceau était déjà bien amené par Nel au départ, quoi.
En fait, je pense que cette pluralité que tu as dans la musique, c'est aussi représentatif du message qu'on a voulu faire passer. C'est qu'il existe autant de personnes sur Terre que de styles musicaux, que d'approches musicales. Et en fait, cette chanson, c'est un joyeux bordel et c'est aussi ce qu'on a voulu transmettre. C'est que sois qui tu es, avec toute l'énergie que tu as, et laisse personne entraver cette énergie-là, en fait.
C'est vraiment un message. En fait, que vous voulez passer pour parler un petit peu des textes, on est sur des choses qui s'attaquent. Enfin, il y a un côté, alors c'est très féministe, on va dire, sur ce que vous faites, et en même temps, vous voulez aussi
C'est pas un gros
ouvrir.
mot, hein, féministe. Hein.
Non, non, mais à chaque fois, enfin, c'est pas que
Nous,
je sais pas comme.
on est féministe.
Oui, mais je sais pas que je veux. Enfin, je veux pas forcément mettre l'étiquette en fait sur les groupes parce que vous êtes un groupe de filles, etc. Donc ça doit être féministe, etc. Mais je trouve que vous le faites sans. Comment dire si on prend The Outsider justement, on est aussi sur une affirmation de soi. Sur Pisces, on est sur les colères dans les couples. Enfin voilà. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion et vous parlez de choses qui parlent. Alors en plus. Là, voilà, il y a un suite More Women on Stage, on en reparlera aussi un petit peu après, mais Voilà, c'est des choses importantes aussi qui sont à mettre en avant à chaque occasion. Mais je trouve que vous parlez en gros de notre société, façon de parler, féminisme, mais aussi relations interpersonnelles, les amis toxiques, etc., quoi. La dépression sur Under the Water, etc., quoi.
En fait, on parle de tout ça pour toucher un maximum de gens. Je pense qu'une chose qu'on a dit quand on a sorti l'album, c'est voilà, c'est notre album, mais une fois qu'il est sorti, c'est le vôtre en fait. C'est à l'interprétation de chacun, c'est à l'appréciation de chacun. Il y a des gens qui vont s'y retrouver, des gens qui vont pas s'y retrouver, et je pense que c'est ça la beauté de la musique, et c'est pour ça qu'on la partage aussi. Autant faire une musique à l'image de la société pour qu'elle touche en fait.
C'est ce que je mettais à la fin de ma chronique, où je termine en disant que, grosso modo, votre album, c'est un cri de ralliement pour celles et ceux qui veulent se faire entendre.
Exactement.
Et donc, pour revenir, enfin, pour aller creuser un petit peu sur ça, sur ce côté revendicateur, justement, les valeurs que vous voulez défendre, particulièrement, alors on a parlé de féminisme, notamment avec More Women on Stage, mais ce serait quoi, sinon, les grands messages que vous voudriez faire passer avec votre musique?
Être soi-même, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est comme quand ben, ça rebondit aussi sur la question précédente sur les textes et les paroles. C'est pas enfin, les paroles du coup sont écrites par Nel, mais c'est pas un truc qui a été réfléchi en mode il faut parler de ça parce que ça va faire écho en ce moment à la société. C'est quand même un truc qui vient naturellement et dont on a envie de parler, qui est en nous. Donc voilà, c'est sur des choses qui nous bouleversent, qui nous traversent et qui sortent assez naturellement. Et bon, du coup, ça fait écho à ce qui se passe en ce moment et dans la société. Et du coup, tant mieux, et ça parle à d'autres gens. Mais c'est vraiment authentique, en fait, de base, quoi.
Pour accentuer quand même sur le. Je reviens sur More Women on Stage. Est-ce que vous constatez qu'effectivement, il y a un petit peu plus de place qui est faite à, je vais dire, des artistes de façon large? Parce que l'histoire des quotas, après, c'est un autre sujet. Mais est-ce que vous avez l'impression que enfin, quand on parle à des artistes, justement, sans mettre d'étiquette ou sans dire, bah, là, c'est bon, on a rajouté une fille sur la setlist, donc du coup, on est un festival engagé, etc. Ou est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail à accomplir?
Il faut pas se leurrer, on a encore vraiment un problème de société sur ce sujet, hein. La représentativité des femmes sur la scène rock metal en particulier est toujours, j'ai envie de dire, désastreuse au vu des chiffres. Ça reste un problème, bien que, pour résumer, les choses évoluent. Il y a de plus en plus d'attention qui est portée à une programmation faite en mixité. Il y a du travail qui est fait et en partie aussi une évolution à ce niveau, au niveau des institutions. Mais la route est encore longue. Et c'est pour ça qu'on continue de se battre pour prendre la place qui nous revient. Voilà.
Ouais, puis nous, ce qu'on rêve de voir, c'est quand même une programmation qui soit assez mixte, mais de manière naturelle, parce que ce qui revient le plus souvent en ce moment, c'est de faire des journées spéciales femmes.
Ouais.
Beaucoup de programmations vont dire, bon, on va faire une journée femmes, et après, du coup, on refait une journée normale, mais du coup, entre guillemets, hommes. Et sur le principe, il y a quand même de base une réflexion qui n'est pas mauvaise, mais après, dans les faits, c'est pas non plus... Enfin, encore une fois, il y a une séparation entre les deux et on se dit pourquoi faire une journée fille et pourquoi faire une journée homme. Nous, ce qu'on veut juste, c'est de l'égalité en fait. C'est une programmation qui soit mixte, peu importe le lieu, le festival. Enfin, voilà, du moment que c'est bon, que ce sont des bons groupes qui nous font plaisir, voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense.
Et sans parler du fait que la plupart du temps, sur des festivals sur 2 jours, par exemple, et ben en fait, la soirée meuf, c'est le vendredi. Sauf qu'on va pas
Ouais.
se voiler la face. Le
Il y
vendredi,
a
il y a
moins
moins
de
de monde.
monde. Ouais.
Donc, c'est un peu ridicule. C'est assez, c'est, ça part d'un bon sentiment, mais c'est contre-productif, du coup.
Un petit mot de ce fait-là sur le titre Bury the Castles.
Oui, alors,
Bah,
vas-y, Eva.
non, bah, comme tu veux.
T'as pas parlé
Where is the Castles, eh ben, c'est un morceau qui va parler d'émancipation, surtout. Donc, il va parler des contes de fées, mais pas dans voilà, les contes de fées avec la princesse qui a besoin d'être délivrée, etc. Non, nous, on veut justement contrer ça, casser les stéréotypes, montrer que justement la princesse peut se sauver elle-même, elle peut être fière, forte. Donc voilà, c'est un morceau qui va parler d'émancipation, de courage.
Et pour revenir à la composition musicale, il y a un autre morceau que moi qui m'a pas mal interpellé, c'est What You Wanted avec cette intro rock. Après, on part sur quelque chose d'un petit peu plus calme. On a de la guitare acoustique, si j'ai bien entendu.
Ah, c'est fou! Je l'ai vu cette guitare, je me suis dit,
Ouais.
est-ce que quelqu'un va l'entendre?
Et ouais, ce petit jeu à chaque fois entre douceur et vraiment un truc bien bien rock, je l'ai trouvé vraiment super intéressant et construit vraiment de façon très précise.
Je vais parler du coup parce que j'ai composé le titre toute seule. Alors déjà, le petite intro de guitare, là, c'est un truc que j'ai trouvé dans une salle de bain chez un pote que j'ai enregistré sur mon dictaphone et qui s'est transformé en riff de guitare. Et pourquoi cette alternance entre quelque chose de très rock et des passages beaucoup plus planants, mélancoliques? Je pense que c'est très représentatif du thème de la chanson, qui parle quand même de ma relation avec mon père, qui a toujours été en dents de scie. Ça se passe bien, on s'engueule, je pleure, et des cycles comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, cette chanson, elle parle de ça, de j'en ai marre de ce cycle, en fait, on va juste arrêter parce que c'est pas bon pour moi. Et du coup, c'est un exutoire de parler de ça, et c'est une manière aussi d'extérioriser ma colère et oui, et le mal que ça a pu me faire. Donc c'est normal qu'elle soit entre deux énergies qui sont peut-être... qui sont complémentaires et qui peuvent cohabiter ensemble et qui bon, c'est malheureux de le dire, hein, mais voilà.
Il y a un morceau aussi que je trouve vachement accrocheur, avec cette fois par contre un chant qui monte un petit peu plus haut, c'est Your Denial, qui est très, j'allais dire presque 70s d'une façon de parler.
Ah, c'est marrant parce qu'en termes d'inspiration, c'était très 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 volontairement inspiré d'Incubus, hein. Donc
Ah, ok.
très 90-2000, tu vois.
Faudra
Si
que je
tu fais
réécoute.
le rapprochement maintenant, tu repenses à
Ouais.
Incubus, tu vas dire, ah oui, effectivement.
OK.
Ce qui est marrant avec cette chanson, c'est que j'arrivais pas à trouver un refrain. À la base, la chanson était composée comme la plupart des morceaux de l'album, c'est-à-dire couplet, très refrain, refrain. On a cherché, on répète, on a cherché, on répète. On s'est pris la tête et j'étais là, mais elle est bien cette chanson, elle peut être bien cette chanson. Et on trouvait pas jusqu'au moment où on a enlevé le pré-refrain et que ça a été, en fait, on a basé le refrain sur les accords du pré-refrain. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça que en termes de tonnage, je vais beaucoup plus haut que sur les autres morceaux.
OK.
Et puis après, voilà, fallait aussi quelque chose de fédérateur parce que c'est quand même une chanson qui parle de. Qui pour le coup est très féministe. Hein. Ça parle de mansplaining, ça parle de. Ça parle d'une anecdote d'un mec qui a essayé de m'expliquer que non, il n'y a pas de problème d'égalité. Voilà. Donc, Your Denial, c'est ton déni en fait.
Ouais.
Ne viens pas me dire que le combat que je mène, en fait, il n'existe pas. Voilà. Surtout dans ta place privilégiée d'homme
Oui,
blanc.
oui,
Voilà.
clairement. Oui, je vois très bien à quoi ça peut ressembler et à quel point ça, des fois, on a envie de se lever et pas tendre la deuxième joue, on va dire. Et je voudrais revenir pour reparler encore un petit peu musique sur Under the Water et sur ce solo à la fin qui monte bien crescendo, etc. Et d'un coup, ça s'arrête, mais genre le couperet qui tombe, quoi. Je m'attendais à un truc, je sais pas, un petit fade out ou une, deux, trois mesures de plus. Et comment vous avez construit cette montée en puissance et pourquoi ça s'arrête comme ça, pof? À chaque fois que j'écoute l'album, en fait, vous me mettez en manque. Une fois que ça c'est fini, je dis, mais mince, mais non. Alors après, c'est un peu
Et ben
vicieux parce
voilà,
que ça donne envie de recommencer.
voilà, c'est très bien.
exactement pour cette raison. Tu as trouvé notre petit piège, tu es tombé dedans. Le but, c'est de te pousser à appuyer sur play pour réécouter l'album.
Ou la chanson, parce qu'on nous a dit, il y a des gens qui sont venus. Alors moi, j'écoute l'album et puis après, la dernière chanson, je la mets 5 fois.
Amandine. Bah après ouais, je sais pas, enfin pour avoir du coup composé la majeure partie de cette chanson, c'est vrai que c'est un moi j'aime bien les chansons très très épique, avec qui mettent du temps à s'installer, qui installent vraiment une atmosphère, une ambiance, et que ça va crescendo jusqu'au point culminant qui est effectivement ce solo. Après, j'ai pas la sensation que ça s'arrête si net que ça, vu qu'il y a un demi-refrain, on va dire, qui
Oui.
revient juste après.
Oui, je suis
Donc, il y a
d'accord.
quand même une conclusion. Et en plus, bon, la dernière phrase de la chanson qui, voilà, qui met vraiment le point final. Donc, oui, ça s'arrête. Il n'y a pas de fade-out, effectivement. Ça s'arrête net dans le sens où les instruments s'arrêtent net. Il y a juste un petit delay sur la voix. Mais il y a quand même une conclusion à la chanson, enfin de mon point de vue, quoi. Et effectivement, du coup, ça peut inviter à remettre play derrière. Donc c'est plutôt pas mal.
Ah, pour parler un peu technique, est-ce que vous avez changé un peu de matériel justement sur cet album-là, ou est-ce que vous avez essayé des choses? Parce que, alors, il y a la magie du studio, comme on dit, par rapport au live, mais est-ce que vous avez changé des trucs?
On teste des trucs.
Ouais.
On teste des trucs. Ouais, on avait fait une petite vidéo, on teste des trucs. Ouais, on a testé plein de choses.
Après
Nel
la.
a, Nel, Nel a fait des percussions sur cet album. On a toutes fait de la programmation aussi.
Quand même parler d'un point qui a complètement changé et c'est Eva qui va en parler quoi.
Ah bah oui.
Alors là, comme ça, je suis désolée, je vois pas de quoi tu
Alors, genre entre le premier album et le deuxième album, tu vois pas du tout ce qui
parles. Ah
de...
oui, l'enregistrement en studio. Oui, bah c'est vrai
T'as
qu'on
joué
va.
sur une vraie batterie, hein. Enfin moi je dis ça.
C'est clair, c'est clair. Donc oui, le premier album a été enregistré avec batterie électronique et VST. Et donc là, bah, cette année, on a eu la chance de pouvoir enregistrer en studio avec Nico, Bamakara Studio. Donc Émilie et moi, on a passé une semaine en studio. Et ben, c'est très cool de pouvoir jouer sur sa batterie, son matériel. Et ouais, y a rien de mieux, quoi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai changé sur ma batterie? Ben, mes peaux. Voilà, c'était mon matos.
Et le
Ils
toucher
sont
pas le
cool,
même, le travail
t'as.
est pas le même
Ouais,
d'ailleurs.
c'est vrai. Bah oui,
Ouais.
forcément, le résultat est pas le même, quoi.
Et t'as
Ouais.
vraiment pris le temps avec Nico de trouver ton son. On a testé des micros, on a testé des caisses claires différentes. Vraiment, qu'est-ce que toi tu veux que comment ta batterie sonne, le rendu que tu veux avoir et tout. Donc ça, c'était cool d'avoir pu peaufiner vraiment déjà le son batterie. On a carrément level up par rapport à l'album précédent, quoi.
Un souvenir particulier que vous voulez nous partager sur ces sessions-là?
Les poules.
Ah oui, poule!
Il y avait des
Peut-être.
poupoules dans le jardin de Nico. Donc, c'était notre petite pause à chaque fois après l'enregistrement. Sur la pause déjeuner, on faisait des petites caresses aux poules.
Non, mais ouais, blague à part, c'était quand même. Même si on n'était pas toutes les quatre à enregistrer en studio, on a quand même passé une majeure partie de la semaine à trois avec Nel, et Céline est venue aussi une journée ou deux, donc on a quand même pu être ensemble. Et c'est quand même un truc, une expérience assez unique et forte de se retrouver dans un endroit exprès, genre enfermé. En plus, là, c'était à la campagne. Enfermé à la campagne, juste pour se concentrer sur notre musique, comment on veut la transmettre, enfin l'enregistrer, la graver dans le marbre, quoi. Il y avait vraiment ce processus un peu où on s'est dit, bon, bah ça y est, maintenant, ça va être définitif, quoi. Donc, c'est vraiment un moment assez fort émotionnellement, je trouve. C'est vraiment passer une semaine en studio enfermé avec un ingé son à parler de ta musique, à essayer de le faire le mieux possible, c'est assez incroyable. Enfin, c'est mon ressenti, quoi. Il y avait une fierté quand même pour cet album-là. C'était trop cool, quoi.
Et puis c'est aussi les prémices de bah, t'enregistres la batterie électronique, Nico, et commence à faire des petits tests de son et machin et de mix où tu commences à avoir le rendu global de la chanson en fait. Et là tu dis, oh, ça va être énorme!
Au niveau live, ça va se passer comment sur les mois à venir?
On a encore quelques trucs qu'on peut pas annoncer.
Ok.
On essaye encore de booker aussi pas mal de dates. Donc ça, c'est la problématique d'être autre produit indépendant et d'avoir cette fonction d'artiste entrepreneur. T'es obligé de gérer tout toi-même. Donc on cherche encore pas mal de dates. On a annoncé il y a quelques temps notre release party qui se fera à Petit Bain le 17 janvier. Donc là, il faut venir en nombre parce qu'on a prévu des trucs pas mal niveau scéno. Et puis voilà, c'est le rendu aussi qu'on a envie de donner. C'est la prolongation de l'album, quoi.
Et vous avez déjà sorti trois clips? avec The Outsider, Pieces et What You Wanted. Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues sur le sujet? Et du coup, ça sortira quand?
Alors, ça sortira quand? On ne sait pas encore.
Ok.
A priori, ça sera probablement fin janvier, début février.
Ok.
C'est sur Dream Survival, du coup, puisque alors déjà, nous, on adore cette chanson et en plus, les gens l'aiment bien. Et on va se taper un petit délire. On aura probablement besoin de plein de gens pour venir jouer dans ce clip.
Okay.
Voilà. Et puis après, on va probablement aussi faire, enfin, on va faire, c'est sûr, une session live bah, extraite Petit Bain, du coup.
Plein de jolis projets.
C'est ça.
Quelque chose de plus que vous souhaiteriez nous dire avant que je passe à ma dernière question?
Bah, juste mentionner le fait que toutes nos vidéos sont faites par Élise, qui est aussi un peu le membre de l'ombre. Tu sais, c'est le côté ingrat, tu fournis beaucoup de travail, et puis tu as les quatre meufs là qui sont sur scène et qui prennent les autographes, les câlins, et l'énergie du public. Et toi, tu es là en train de faire tes petites vidéos, à donner des conseils, à travailler la DA. C'est elle qui a fait aussi la pochette de l'album. Donc voilà. Juste souligner ça parce que c'est important de dire qu'on n'est pas que quatre en fait, on est cinq.
Je vous fais cinq propositions et vous choisissez celle que vous préférez. Je vous propose d'avoir une boussole qui vous guide vers l'espoir, une lanterne qui éclaire des vérités cachées, un arbre dont les fruits guérissent les blessures, un instrument de musique dont la mélodie apaise les conflits, ou un livre dont chaque page révèle un secret oublié. Qu'est-ce que vous choisissez?
Moi, la première. Parce qu'en fait, les secrets, les vérités cachées, ça sert à rien en fait. Si ça doit pas être dévoilé, si ça a été caché, c'est pour une raison. Il n'y a pas besoin d'aller creuser pour ce genre de truc. Et je pense que rien que le fait de suivre un chemin qui peut avoir plusieurs trajectoires, hein, parce que c'est pas parce que tu suis une boussole que des fois t'as pas envie de t'éloigner du chemin. Ça, je trouve ça cool en fait, d'avoir un point de raccrochage, mais à la fois d'avoir la possibilité de passer dans des sentiers un peu biscornus, mais toujours pour aller au même endroit, finalement.
Les petits secrets, justement, j'aimais bien, ça me parlait, mais ce que t'as dit, Nel, en fait, ça m'a convaincue. C'est vrai que l'idée de la boussole et de l'espoir, c'est quand même beaucoup plus positif. Et ouais, du coup, finalement, je pense que comme toi, je choisirais la boussole.
Vas-y, Émilie.
Ouais, non, mais c'est marrant. Bah, on se complète, enfin, on se complète bien. On est assez raccord. J'avoue que c'est aussi l'image qui me parle le plus, enfin, l'idée qui me parle le plus sur les cinq, quoi, qui colle le plus à notre énergie, en tout cas au point de vue du groupe et à ce qu'on vit. Et je sais pas, je trouve que c'est un symbole de positif, d'être tourné vers le futur et de lumière, quoi, d'un groupe qui avance dans la même direction, si on peut dire. On sait d'où on vient et on trace vers là où on veut aller, quoi. Moi, j'aime bien cette idée, en fait.
En fait, même si l'arbre qui soigne là a un côté très alléchant, je
Oui.
pense que tu peux pas soigner tes blessures tant que tu vas pas de l'avant, en fait.
C'est beau.
Ben moi, je choisis aussi la boussole. Pour tout ce que les filles viennent de dire, pour poursuivre notre route, en fait, pour qu'elle soit un symbole de notre résilience et de notre détermination, en fait, à continuer ce qu'on a entrepris et à nourrir tout ça d'espoir et continuer à travailler, continuer à se battre. Par contre, j'aime bien quand même la lanterne pour éclairer le chemin. Parce que des fois, quand même, ça serait sympa d'avoir un peu le mode d'emploi.
Ah, mais là, c'est la lanterne sur les secrets cachés. C'est
Ah oui, ouais.
sur des vérités cachées, donc c'est pas, tu vois.
C'est pas pareil.
Pour moi, c'était le livre qui avait des vérités cachées à chaque page. La lanterne,
Non, c'est...
elle était
Ah
plus symbole.
oui, le livre avec... Est-ce qu'il y a les recettes dedans?
Ah
La recette du
non.
succès, s'il vous plaît.
Bon, écoute,
Oui.
alors soit le livre de recettes du succès ou la
Ah.
lanterne pour éclairer le chemin, mais tout en gardant la boussole solidement ancrée dans la main. Voilà.
Ça
Et
marche.
bon.
Un dernier mot pour conclure?
Kiffez-vous.
Ouais, faites-vous confiance et poursuivez vos rêves, lâchez rien, quoi.
Aimez vos
Merci.
différences Et n'oubliez pas de venir à notre release party le 19 janvier.
On aime vos différences, nous aussi.
C'est clair.
Vos différences sont les bienvenues.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi, Xavier.
Merci.
Merci, Xavier. Merci, l'autre monde.